Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez l'émission La Cerisée, ne quittez pas, sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
Nous sommes les terminales HLP 1 avec nos professeurs dans le cadre de notre projet Atelier Radio. Nous avons vu la pièce « Nous reviendrons au printemps », une adaptation de La Cerisée de Tchekhov, mise en scène par Simon Anoukaï au Théâtre de l'Avant-Scène. Dans cette émission, il y aura une interview et une fiction sonore.
À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
C'est l'heure de l'interview. Bienvenue à nos journalistes Otilia et Lilia. Vous recevez Simon Anoukaï, metteur en scène de Nous reviendrons au printemps, et la comédienne Eva Carmen Jarriot.
Bonjour monsieur Simon Anoukaï et Eva Carmen Jarriot.
C'est un plaisir de vous rencontrer ici à Radio Campus Paris. Nous allons parler de l'œuvre théâtrale La Cerisée d'Anton Tchekhov, cette œuvre qui parle d'une famille au bord de perdre leur bien le plus précieux, la cerisée. Et c'est Simon Anoukaï, ici présent, qui a mis en scène cette pièce à l'avant-scène au Théâtre de Colombes. C'est-à-dire les spectateurs au centre de la pièce comme participants à la pièce qu'ils et elles regardent.
Est-ce que c'était nouveau pour vous de créer une pièce immersive et quel a été votre ressenti ?
Non, pour moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a 20 ans. Donc depuis 20 ans, je travaille dans cette manière parce que pour moi, c'est très important de mettre le spectateur dans le cœur du projet et comment on peut vraiment sentir le monde de chaque pièce qu'on crée. Pour moi, c'est aussi un moyen de faire un petit rappel aux gens qu'on doit être actif dans notre vie et pas passif dans notre vie.
D'où vous est venue cette idée de pièce immersive?
Pour cette pièce particulièrement, c'était inspiré... Donc, on a commencé cette création pendant la crise migratoire, qui était vraiment au milieu de la crise migratoire ici en France. Et à ce moment-là, j'ai habité à Metro Stalingrad. Et chaque jour, j'ai descendu et j'ai vu des dizaines et dizaines de tentes juste en face de moi. Et à un moment, 1000 personnes qui ont habité juste là-bas dans la rue. Et j'ai juste pensé, j'ai entendu les mots de cette pièce dans ma tête et je pensais, à qui appartient cette cerisée? De l'Europe, de France, qui peut dire c'est chez moi, ici, maintenant? Et moi aussi, dans ma famille, on a une expérience d'être réfugié quand j'étais petit, donc au collège. Donc j'ai vécu cette expérience d'être réfugié dans un pays. Et pour voir ces gens dans la rue comme ça, je pouvais pas comprendre comment on peut faire ça. Et donc ça, c'était l'inspiration. Et après ça, j'ai donné un masterclass et Eva était dans cette masterclass de théâtre immersif. Et on utilisait les textes de Tchekhov. Et on commençait petit à petit comme ça. Et après, le comédien dit « Est-ce qu'on peut continuer ce travail ?» Donc, ça commençait comme ça.
Comment vous êtes-vous préparé à l'improvisation face au public ?
Oui, effectivement, il faut se préparer. je dirais que le théâtre immersif pour une comédienne, c'est tout le travail qui existe quand on fait une pièce de théâtre classique, qui est déjà énorme, mais en plus, il faut jouer à 360. J'aime bien cette idée de se dire qu'il n'y a pas de coulisses. Et donc, quand il n'y a pas de coulisses, ça joue partout. Et il y a, dans le jeu, on est tout le temps dans l'instant. C'est vraiment une sensation du moment présent qui est beaucoup plus grande que quand on est sur scène, je dirais, dans une pièce plus classique. Tout est possible. Tout peut se casser la gueule, comme tout peut briller comme jamais.
Oui. Vous êtes plus libre, ça veut dire.
On se sent plus libre et en même temps plus en danger.
Oui.
Mais plus vivant, du coup.
Oui, je comprends. Alors, une question pour la comédienne, du coup. Ça vous a pris combien de temps pour apprendre vos textes ?
Alors, ce n'est pas la partie texte qui m'a pris le plus de temps. C'est plutôt comment intégrer le texte et le sens du texte et le sous-texte. Est-ce que ça racontait du personnage, de l'intégrer pour qu'il soit tout le temps en moi, du début à la fin, et sentir aussi l'évolution du personnage du début à la fin, qui est une évolution qui n'est pas forcément dans un temps linéaire comme nous on le perçoit dans la vie normale, puisque ça se déroule sur plusieurs mois, et elle passe vraiment dans le cas de mon personnage qui est Dora, qui est donc la servante dans un mot plus qui serait la servante de la famille, mais qui a aussi grandi avec la famille, qui est jeune et qui passe d'un statut justement inférieur à un statut un peu supérieur, puisque c'est une des seules qui va rester finalement dans cette maison avec monsieur Lopak. Donc elle monte comme ça les échelons et il y a toute cette évolution qu'il faut intégrer à soi, quoi. Intégrer à son personnage, au-delà du texte. Le texte, c'est un appui pour composer après.
Oui.
Est-ce que c'était compliqué de se mettre dans la peau de votre personnage ?
Non, c'était pas compliqué, c'était plutôt plaisant. Oui, parce qu'elle est... Enfin, oui, après, c'est peut-être moi aussi qui mets du personnage, mais pour moi, elle est pleine d'espoir, cette jeune fille. Donc, elle... Non, c'était pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de lui donner de la matière et que ce soit réel et sincère du début à la fin. Ça, c'est toujours plus compliqué.
Oui. Parce que je veux juste ajouter une chose. Pour Eva, elle ne sort jamais. Elle est toujours sur scène. Elle doit voir tout. Et elle dirige tout. Donc vraiment, cette personnage, il n'y a pas beaucoup de textes, mais il est vivant tout le temps.
Oui, on l'a remarqué.
Tout le temps.
Oui. C'est vrai. On retrouve beaucoup de chants dans votre mise en scène. Est-ce que vous avez choisi des comédiens avec des compétences en chant en particulier ?
Oui, mais aussi, au début, on ne savait pas qu'est-ce qu'on va créer. Oui. On a commencé avec le texte et on a dit, qu'est-ce qu'on va créer avec ce texte ? Et petit à petit, on a vu que la musique est très importante pour nous dans cette pièce. Donc, on a commencé, on a découvert qu'il y a plusieurs personnes qui déjà chantaient dans le groupe. Et après, on a eu quelqu'un qui est Alexis Pivot, qui a créé le livre musical. Et June McGrain, qui est déjà dans la pièce, qui est chanteuse et musicienne. Donc, on a commencé à créer la musique et petit à petit, on a dit, oh oui, on a vraiment besoin des musiciens et des chanteurs-chanteuses. Et quand on a fait les auditions, on a trouvé des gens incroyables qui maintenant jouent dans la pièce.
Alors, dans cette mise en scène, vous faites un changement de mise en scène drastique. Donc, c'est-à-dire qu'au début de la pièce, on est sur le plateau avec des comédiens, comédiennes. Puis, au fur et à mesure de la scène, elles nous emmènent dans un autre univers où on voit les personnages dans leur intimité. Est-ce qu'il y avait un but à cela ?
Oui, donc pour nous, cette partie, c'est la seule partie qui n'est vraiment pas dans l'original de Tchekhov. Oui. Et pour nous, c'était, quand on commençait à travailler, on a vraiment créé cette question, c'est quoi qui tue les racines de tous les cerisiers ? Pourquoi ils ne donnent pas de fruits ? Donc on a commencé à travailler dans cette idée de subconscient de chaque personnage. Et on a dit, ok, donc pour chaque personnage, c'est quelque chose vous détruit de l'intérieur. Donc, tous les comédiens et comédiennes ont commencé à travailler dans cette idée début de l'improvisation. Et petit à petit, on a créé ces petits moments qui amènent les spectateurs dans le subconscient de chaque personnage. Donc, c'est ça la deuxième partie qui est normalement pas dans le Tchekhov.
D'accord. Par rapport à la pièce originale, quel est le plus grand changement que vous avez fait, au-delà du côté immersif?
Pour nous, dans la pièce originale, c'est déjà une pièce très connue et très compliquée, très difficile, avec beaucoup de niveaux, avec beaucoup de... Vraiment, le changement de pouvoir dans cette pièce est une partie, pour moi, qui est plus importante. Donc, on a beaucoup travaillé au début, on a aussi diminué le nombre de comédiens, de personnages. Normalement, c'est 14, 15, et maintenant, on a 9. Et on a dit, c'est quoi, quelles choses sont absolument essentielles? Et après, comment on peut adapter cette pièce pour immersion? Mais pour moi, de début, quand j'ai lu la pièce il y a 15 ans, j'ai toujours senti la communauté autour de cette famille. Qui sont les gens qui vivent autour de cette famille aristocratique qui a beaucoup de pouvoir dans leur monde? Et qui sont les voisins, les amis qui entrent tout le temps pendant la pièce? Donc pour moi, le spectateur était ces gens qui habitent autour de cette maison, qui connaissent les familles, qui sont toujours avec eux, qui veulent entrer et dire « Ah, oh, bonjour Dora, bonjour Louise, bonjour, je suis avec vous ». Donc on a toujours imaginé les spectateurs fait partie de cette communauté autour. Et petit à petit, quand on a créé la pièce, on a créé autour de cette idée.
D'accord. Vous avez autant choisi de faire parler les personnages avec un langage plutôt soutenu que de mettre un PowerPoint. Pourquoi avoir choisi ce contraste?
Oui. Donc pour nous, les choses qui étaient intéressantes pour nous, c'est l'original de Tchekhov, c'est écrit dans une manière très quotidienne, très normale. On peut attendre ça dans la rue. Et après, il y a des moments de poésie qui sortent de cette manière. Moi, je suis originaire d'Azerbaïdjan et donc je parle en russe, c'est mon langue maternelle. Donc je lis le texte original et quand je lis les autres traductions, ils sont toujours très très poétiques. Et pour moi, ils sont un peu trop poétiques. Donc on a essayé de faire une autre traduction qui est pour moi plus quotidienne, plus les choses qu'on peut entendre dans la rue et entendre autour de nous maintenant, aujourd'hui. Le PowerPoint, on s'est demandé si ce personnage va faire une présentation aujourd'hui, à 2024, il va faire un PowerPoint. Oui. Il va présenter ses idées dans cette manière. Mm-hmm. Donc, c'était pas quelque chose qu'on ajoute juste pour ajouter, mais si ce personnage de l'OPAC, qui est vraiment le businessman, qui veut être ce personnage qui comprend tout, aujourd'hui, il va faire un PowerPoint. Et pour ça, on a ajouté ça.
Oui. Donc, vous avez mélangé modernité et le traditionnel.
C'est ça. D'accord. Pour moi, cette pièce, c'est toujours... C'est avant, mais c'est maintenant et c'est l'avenir. Oui. Donc, tout vit dans cette pièce.
OK. D'accord. Et notre dernière question. Quel avenir envisagez-vous pour les personnages?
Je passe à toi.
Moi, j'ai l'espoir que Dora, elle s'épanouisse complètement et pleinement dans ses nouvelles tâches, dans cette cerisée. Mm-hmm. J'ai une sensation contradictoire parce que elle y reste. Alors que je pense qu'elle rêve de voyager, de découvrir d'autres cultures, d'aller ailleurs. Et en même temps, elle a cette possibilité de réellement s'épanouir en restant dans le domaine et en travaillant et en apprenant à travers l'enseignement que Monsieur Lopak peut lui donner. Donc il y a deux visions comme ça, mais qui sont les deux pleine d'espoir, je dirais.
Et oui. C'est comme ça pour tous les personnages aussi de la pièce?
Je pense que pour chaque personnage, l'avenir est très incertain. Donc, c'est pour chaque à créer cet avenir. Donc, pour moi, je ne sais pas, j'imaginais beaucoup de possibilités pour chaque personnage. Mais pour nous, le fin de la pièce, la porte est complètement ouverte. Mais on sait, OK, cet personnage-là, ça va être compliqué pour cette personne. Pour l'autre, ok, peut-être on peut imaginer qu'est-ce qui va passer après. Oui. Mais pour nous, la pièce, le but n'est pas donner une réponse fixe. C'est pour nous, pour imaginer qu'est-ce qui peut passer après.
Donc, chacun a sa propre interprétation de la fin. D'accord.
Exactement.
Et merci à vous d'être venus et
d'avoir répondu à nos questions.
Merci.
Merci, c'est à vous.
Très intéressant. Merci Otilia, merci Lilia, merci Simon Anouka et merci à vous Eva Carmen Joriot. C'était très intéressant. Merci d'avoir répondu à nos questions et merci pour la disponibilité. Et tout de suite, la pause musicale.
Libre, me voilà, c'est ma voix là, la suite en musique, sur scène en coulisses. Libre, me voilà, mais sans toi là.
vient d'écouter Angel Libre. Tout de suite, nous allons écouter une fiction sonore imaginée à partir de la pièce Nous reviendrons au printemps. Que sont devenus les personnages de la Cerisaie un an après sa vente? Eh bien, on les écoute tout de suite.
Salut Firs, c'est Dora. Je te laisse ce petit message car tu ne réponds pas à mes appels. Ça fait maintenant un an qu'on a quitté la Cerisaie, dire que tu es encore plus vieux qu'avant. Avec du recul, je me demande bien comment t'as pu passer autant de temps dans la servitude. Tu aimais vraiment ça? Quant à moi, les vidéos que je regardais sur internet durant mes courtes pauses m'ont poussé à me lancer. Ça a pris du temps mais j'ai finalement pu en faire ma vie et devenir indépendante. De temps en temps, je me sens coupable de t'avoir laissé seul pendant que moi, je connais une vie de rêve. En pensant à toi, je me disais que j'aurais peut-être dû rester à la Cerisaie. Ça t'aurait peut-être épargné quelques corvées vu ton âge. Malgré tout, ma nouvelle vie d'influenceuse ne me déplaît pas. Bien au contraire, je me sens enfin importante aux yeux des gens. Aujourd'hui, mon avis compte. Je suis encore en Russie, mais je me demande depuis un moment si je devrais profiter de ma notoriété pour rendre visite à Vera. T'as vu, c'est devenu une star. Toi aussi, il faut que tu penses à toi. Tu ne peux pas passer ta vie complète à servir les autres. Généralement, les personnes de ton âge ne pensent qu'à accomplir leurs rêves avant de partir. Si ça te dit, je pourrais te faire voyager grâce à mes sponsors. Ou sinon, tu pourrais suivre Vera dans sa tournée de chanteuse internationale. Finalement, la décision te revient. Mais je ne comprends pas comment tu peux prendre autant du plaisir à prendre soin de personnes qui ne te considèrent même pas. J'espère quand même que ce message t'aura fait plaisir. Et si mes propositions t'intéressent, n'hésite surtout pas à me recontacter.
Bonjour Louise, c'est Gabrielle. Je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui j'ai ressenti le besoin de te parler. Peut-être parce que c'est une date particulière ou peut-être simplement parce que j'ai besoin de parler. D'abord, des nouvelles de moi. Je suis devenue banquier. Oui, banquier. Je sais ce que tu penses, ce que tout le monde pense dans la famille. C'est une sorte de trahison, une aberration presque, vu d'où on vient. Mais tu sais quoi? J'apprécie ce travail. Pas pour ce qu'il représente ou pour le prestige, il n'en a aucun à mes yeux. Non, ce que j'aime, c'est qu'il est léger. Il n'a aucun point émotionnel sur moi. Les gens qui viennent me voir pour des prêts, des économies, leur plan de vie, je les écoute bien sûr, mais je m'en fiche, si je dois être honnête. Ça n'a rien à voir avec moi, rien qui ne m'atteint vraiment. Peut-être que c'est justement ce détachement qui me plaît. Mais je ne t'en parle que parce que ça te fera lever les yeux au ciel, comme d'habitude. Ce n'est pas pour ça que je t'appelle Louise, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait un an que Fierce est mort. Je n'arrête pas d'y penser, à lui, à tout ce qu'il a représenté pour nous, pour moi. Fierce, il a été plus qu'un majordome, tu le sais aussi bien que moi. Il était là à chaque moment de nos vies, comme une présence discrète, mais constante, solide. Il s'est occupé de moi, de nous, comme si c'était sa mission. Et maintenant qu'il est parti, je ressens ce vide immense. Je n'avais jamais imaginé à quel point son absence serait douloureuse. Et ce qui me hante le plus, Louis, c'est comment il est mort. On l'a oublié, Fierce. Cet homme qui a consacré sa vie à la nôtre, qu'on avait promis de mettre à l'abri, en maison de retraite, dans un endroit digne. On l'a laissé dans cette vieille maison, cette carcasse qu'on savait vouée à disparaître, et elle a disparu avec lui. C'est de notre faute, de la mienne. Comment ai-je pu être aussi négligent, aussi indifférent? Il me revient sans cesse des souvenirs de lui, sa voix grave et posée quand il me disait de redresser les épaules, de marcher comme un homme, son regard bienveillant même quand je faisais des bêtises. La façon dont il s'occupait de tout, sans jamais se plaindre. Fierce ne méritait pas ça, Louise. Il méritait qu'on tienne notre promesse. Ce poids, cette culpabilité, je ne sais pas quoi en faire. Il m'écrase. Parfois, j'ai l'impression que je ne mérite rien de ce que j'ai. Pas mon travail, pas ma vie. Tout ça paraît tellement futile quand je pense à lui, seul, oublié dans cette maison. Tu te souviens de la façon dont il parlait de nous, comme si on était ses propres enfants? Peut-être que, d'une certaine façon, c'est ce qu'on était pour lui. Et pourtant, on l'a laissé tomber. J'ai l'impression de porter ça comme un fardeau qui ne me quittera jamais. Je ne sais pas ce que je cherche en te disant tout ça. Peut-être que j'ai juste besoin de le partager avec toi, parce que tu es ma sœur, parce que tu le connaissais comme moi. Peut-être que toi, tu trouveras un sens à tout ça, une façon de vivre avec cette perte, avec cette culpabilité. J'aimerais qu'on parle de lui un jour, qu'on ne l'oublie pas, même si on l'a abandonné. C'est le minimum qu'on lui doit, non? Je pense à toi, Louise, à nous, à lui, à bientôt.
Thank you. Bonjour Sacha,
c'est Louise.
Je m'excuse de vous déranger ainsi, mais il m'a semblé nécessaire de vous appeler, malgré l'heure peut-être incongrue. Vous savez, je réfléchis souvent à cette cerisée qui m'appartenait autrefois, à la lumière douce qui tombait sur les arbres, à l'odeur des fleurs. Tout cela est derrière moi maintenant, bien sûr. Je vis chez ma tante, une femme admirable, mais son monde n'est pas le mien. Vous comprenez, n'est-ce pas ? Mon rôle ici est de la distraire, de lui tenir compagnie. Un bien curieux retournement de sort pour une femme qui avait sa maison, sa terre, son fils. Ah, pardon, je suis si distraite ces derniers temps. Ces médicaments m'aident à trouver un semblant de paix, mais... Enfin, ce n'est pas ce dont je voulais vous parler. Anna, vous savez, elle ne m'appelle plus depuis qu'elle a eu cette idée de partir à Berlin pour étudier les lettres. Enfin bon. Comment allez-vous, Sacha ? Êtes-vous heureux là où vous êtes ? C'est étrange de vous parler ainsi, mais... Il y a des moments où j'ai l'impression de vous connaître mieux que vous ne le pensez. Vous avez cette douceur avec lui, avec mon petit garçon. Vous avez toujours su lui parler, le comprendre, n'est-ce pas ? Mais il y a autre chose, quelque chose qui ne me quitte pas, qui m'étouffe parfois, ce fleuve si proche de la cerisée. Vous vous rappelez ? Ce courant, cette eau et mon fils. Vous étiez là, Sacha, vous étiez là et pourtant... Je vous ai confié mon enfant. Vous auriez dû veiller sur lui, le protéger. Vous saviez qu'il aimait trop s'approcher de l'eau, qu'il était imprudent. Comment avez-vous pu le laisser ? Comment avez-vous pu détourner les yeux ? Mais à quoi bon en parler maintenant ? Rien ne changera, rien ne ramènera ce qui a été perdu.
Salut Anna, c'est Sacha. Je sors d'une manif à République, celle dont je t'ai parlé hier. C'était vraiment incroyable. Les slogans et les affiches étaient très présents et j'ai encore les chants des manifestants dans les oreilles. Mais toute cette poésie s'est malheureusement transformée en chaos quand la police est intervenue. J'ai failli me faire emmener au poste quand ces hommes ont marqué mon badge ACAB. Tu te rends compte ? Mais pour tout se dire, je n'ai jamais autant rigolé que durant cette course-poursuite avec mes camarades de Sciences Po. Enfin bref, attends, j'ouvre ma porte. Deux secondes, j'ai rien chaud au téléphone. Du coup, aujourd'hui, j'ai eu un cours en amphithéâtre. La vie est tellement plus passionnante qu'à la cerisée. Je suis heureux, Anna. Heureux de faire ce que je veux, heureux de t'avoir au téléphone aussi souvent, mais surtout heureux que je sois enfin ce que j'ai toujours été, un éternel étudiant. Ma vie est si facile. Je me lève, je vais en cours, puis je rentre. Je ne vois même pas le temps passer. Ah oui, j'ai failli oublier. J'ai enfin adopté le chat dont je t'ai tant parlé. Je l'ai appelé Descartes. Nous devrions prendre un café dans les semaines suivantes. J'ai découvert un petit bar vers Bastille où j'ai rencontré d'autres amis. Ils sont comme moi. Merci à eux de me faire découvrir Paris chaque jour. Je viens de me rappeler pourquoi je t'ai appelé en premier lieu, pardon. J'ai eu ta mère au téléphone il n'y a pas longtemps. Elle m'accuse d'avoir abandonné ton petit frère dans la rivière, de ne pas l'avoir suivi ce soir-là. Mais tu savais, Anna, il est parti si vite, ce n'était pas ma faute. Et si j'avais su que le courant était aussi fort, je me serais dépêchée. Pardon, c'est juste que ça avait beaucoup à gérer. D'ailleurs, comment vas-tu ? J'ai presque oublié de te demander. Allez, bisous ma Anna.
Salut Sacha, c'est Anna. Je vois que tu m'as laissé un message, j'ai pas eu le temps de l'écouter, il faut absolument que je te parle avant de me dégonfler. Il faut que je te dise tout ce que j'ai sur le cœur. Ça fait déjà un an qu'on s'est pas vu, on se parle c'est vrai, mais un an sans se voir c'est long. Et pourtant j'ai l'impression que c'était hier que tu m'as fait entrevoir un monde différent, loin de la cerisée et de la prison que pouvait être ma mère. Depuis que je suis à Berlin, ma vie a totalement changé comme tu sais. J'étudie toujours la littérature, moi qui pensais ne jamais avoir le courage de me replonger dans les livres, toi tu as réussi à me montrer à quel point les mots peuvent être puissants, à quel point ils peuvent nous rendre libres. Je me souviens de ces discussions qu'on avait, de ta passion pour la musique et les idées. Tu as semé quelque chose en moi ce soir-là, Sacha, et maintenant c'est comme si cette graine avait enfin germé. Je suis toujours babysitter, il faut que je finance mes études. Tu le sais bien, ça peut te paraître banal, mais en réalité ça m'apporte beaucoup. Les enfants ont une façon de voir le monde si pur, si direct. Ça me pousse à réfléchir autrement, à apprécier les petites choses. Parfois, je les vois s'émerveiller devant un rien et ça me rappelle nos conversations. Toi aussi, tu savais t'émerveiller. Mais tu sais quoi ? Ce message, ce n'est pas juste pour te raconter ma vie. C'est pour te parler de toi. Parce que Sacha, tu es là, partout. dans tout ce que je fais. C'est toi qui m'as donné envie de liberté, envie de construire quelque chose par moi-même. C'est grâce à toi, si j'ai osé croire que je pouvais être indépendante, que je pouvais suivre mes propres rêves, tu m'as appris à voir plus grand, à ne pas avoir peur. Et je pense que c'est pour ça que je t'aime. Je t'aime, Sacha. Pas seulement pour la personne incroyable que tu es, mais aussi pour tout ce que tu m'as permis de découvrir en moi. Tu es une source d'inspiration, une sorte de guide invisible, même si tu n'es plus là. Quand je t'écoute jouer du piano dans mes souvenirs, quand je pense à ton amour des études et ta soif de liberté, je me rends compte que tu es exactement la personne que j'aimerais avoir à mes côtés. Parfois, je me demande ce que tu fais, où tu es. Est-ce que tu es toujours perdu dans tes livres, toujours derrière ton piano? Est-ce que tu penses parfois à moi comme je pense à toi? J'aimerais tellement le savoir, mais une chose est sûre, tu as laissé une trace en moi. Et quoi qu'il arrive, je ne l'oublierai jamais. Alors voilà, je voulais que tu saches tout ça, que tu saches tout ce que tu représentes pour moi. Ce que tu as changé en moi. Je t'embrasse, Sacha. Prends soin de toi.
Bonsoir maman, c'est Vera. J'ai vu que tu m'avais appelée dernièrement, mais je n'ai pas eu le temps de te répondre entre toutes les répétitions et les concerts. Mais je profite de mon temps de pause pour te faire passer ce message. Tu sais, depuis que je suis cantatrice et que je suis devenue mondialement connue, tout s'enchaîne très vite entre interviews et concerts. Je suis demandée de partout, mon téléphone ne cesse de sonner. En voyant ton appel, j'ai pensé au départ que c'était encore un journaliste qui m'appelait. Actuellement, je suis au Royal Opera House à Londres pour ma tournée internationale. D'ailleurs, je remonte bientôt sur scène. Oh, Jake, my coffee please, and quickly. Quelle bande d'incapables. Ah, et en parlant d'incapables, en voici un qui est le meilleur dans son domaine, l'opaque. Je n'ai cessé de l'appeler pendant des mois, mais en vain. Il n'a jamais daigné me répondre. J'imagine que posséder la cerise lui est monté à la tête. Heureusement que depuis, j'ai rencontré Gaston. C'est mon violoniste. Ah, si tu savais, il est tellement intentionné. Enfin bref, demain je poursuis ma tournée à New York, tu sais la ville pour laquelle tu nous as abandonnés. Tu as seulement pris ta fille chérie Anna avec toi, mais c'est clair, tu l'as toujours préférée. Tu sais maman, je me suis toujours sentie de trop. Personne ne se souciait vraiment de moi à la Cerisée, mais maintenant que je suis célèbre et riche, je n'ai plus besoin de vous. Je dois y aller, c'est à moi de monter sur scène. Au revoir.
Allô, Carlotta ?
Oui, c'est Louise.
Louise de la Cerisée. J'espère que tu te portes bien. Ça fait si longtemps, ça fait un an, je ne vois plus le temps passer. Enfin, moi oui, je me porte bien si tu t'en préoccupais. Je suis chez ma tante actuellement. Tu t'en rends compte ? J'ai retracé ton chemin. Je suis devenue dame de compagnie pour ma tante et j'ai pensé à toi. Je me disais que ce métier n'était pas si mal finalement, le fait de tenir compagnie à quelqu'un. Mais franchement, qui n'a pas besoin de compagnie? Tout le monde en a besoin. Je m'occupe d'elle, surtout de la température de son café. Elle me paye pour me raconter ses amourettes et avoir une épaule sur laquelle pleurer. Je l'amuse en lui faisant les mêmes tours de magie que tu me faisais à l'époque de la Cerisée. D'ailleurs, tu te souviens de ma Cerisée? Quelle époque! Tout était si beau, si entretenu, j'y mettais tellement de moyens. Elle me manque. Il y en a une ici aussi, mais rien à voir avec la grandeur de la mienne. Ma tante Joséphine n'en fait rien. Elle ne s'en occupe pas. Elle est si brute et inintéressante. Je me fiche de sa vie, de ses états d'âme et ses amours ridicules. Passer ses journées à écouter quelqu'un d'autre parler, toujours écouter, surveiller la température de son café, faire des tours de magie pour la distraire. Non mais franchement, ça t'a rendu heureuse, toi? Passer sa vie dans l'ombre de quelqu'un? Ne plus être sa personne, mais l'extension d'une autre? Je n'existe que dans l'optique du bonheur d'une autre. Le mien m'a été arraché. Je veux pas être coincée ici à écouter ma tante radoter sur ses amourettes. Les tours de magie, hein. Pourquoi je fais encore ces tours stupides? C'est ridicule. Est-ce là la vie? Eh bien, je ne veux pas de cette vie. Elle ne me ressemble pas. Je suis Louise. Je ne suis pas une dame de compagnie. Je suis encore moins la dame de compagnie de Joséphine. Je crois que j'ai trop bu. Qu'est-ce que je disais déjà ? Salut Vera, c'est Lopak. Je voulais te parler. Ça fait un an déjà et je t'ai vue à la télévision. T'as un sacré talent. T'es vraiment splendide. Écoute, j'avais de nombreuses choses à te dire, mais visiblement, tu n'es pas disponible. Je crois bien que tu es trop occupée maintenant. Tu as pris un nouveau départ, je comprends et ça me soulage. Tu en avais besoin. Bon, il fallait que je te dise, c'est parce que Firs est mort. Je l'ai enterré il y a un moment. Il fallait que je t'en reparle, encore. Je sais que tu es forcément au courant, mais est-ce que tu te rends compte de ce que ça a été pour moi ? Je l'ai découvert quand je suis entrée dans la maison, pour faire un dernier tour avant de commencer les travaux. J'ai ouvert l'entrée et il était là, seul, sans vie, abandonné par vous tous après tout ce qu'il a fait pour cette famille. Visiblement, il n'était pas rancunier, avec tout ce que les siens ont vécu dans ce lieu, la servitude, comme mes ancêtres. On vient du même monde, et toi aussi Vera, adoptée mais jamais complètement intégrée. Fierce, c'était un homme humble. Je ne comprendrai jamais son choix de vie, de travailler dans cet endroit où nos ancêtres ont souffert. Enfin bref, ce n'est pas à moi d'en juger. Que d'état d'âme et de concentration perdue pour les travaux de la maison. Alors que j'ai si bien avancé dehors, si tu pouvais voir Vera, quel avenir j'ai promis à cette cerisée. Si quelqu'un m'entend, merci de m'avoir confié ce domaine, c'était fait pour moi. Puis bon, au final, je crois que c'est pas plus mal que je me débarrasse de cette maison. Me dire que mes ancêtres étaient là-bas et que moi, je reprends possession de ce lieu. Désolée de mon honnêteté, mais c'était vraiment glauque, je ne sais pas, je trouvais plus de sens à ce lieu. C'était sombre et poussiéreux par la présence des esprits de nos morts. De toute façon, maintenant que j'ai repris les commandes, tout roule. Viens me voir, Vera. Viens chanter pour moi dans mon nouveau domaine. Tu verrais comme c'est beau. C'est immense. J'ai fait de petites maisons en gîte, des gigantesques toboggans pour les enfants. Viens passer tes vacances ici. Une graine de star doit bien se reposer. Ramène-moi des souvenirs de Londres ou une des 15 villes que tu visites par mois. Enfin, à bientôt, Vera. Rappelle-moi.
C'est la fin de l'émission. C'était la fiction des terminales HLP1. Merci d'avoir été à notre écoute. Merci au Théâtre de l'Avant-Scène, merci à Clélia, merci à Rosalie, merci à Julia, merci au professeur Monsieur Bondel et Madame Hort pour l'accompagnement, merci à Simon Anoukaï, le metteur en scène de la pièce, merci à Eva Carmen Jariot, la comédienne dans le rôle de Dora, merci à Nour dans le rôle de Gabrielle et Anna, merci à Manon dans le rôle de Louise, merci à Nasri dans le rôle de Dora. Merci à Lila dans le rôle de Sacha. Merci à Carolina dans le rôle de Vera. Merci à Rokia dans le rôle de Louise. Merci à Mélina dans le rôle de Lopak. Merci à Otilia et Lilia, nos intervieweuses. Cette émission a été réalisée par Daniela et présentée par moi-même. Merci.